Bonjour Christine.
Buongiorno.
Oh là. Bonjour Chris et bonjour Louis et bonjour à tous.
Bonjour, sarebbe bello de parlare un po' l'italiano, fare questo programma in italiano. Come si può chiamare? Bon. I pazzi della pasta.
E no? Come si dice l'élément de midi?
E i pazzi.
Ah bon?
I pazzi del pomeriggio. Non.
Bien.
Nous ne sommes pas sur Radio Italienne. Oh, quel dommage.
Allez, un peu moins forestière et un peu plus françaisien.
Bon. Vas-y, essaie de nous faire un portrait.
Non, j'ai peur des dérapages incontrôlés. Bon, bienvenue dans l'émission Les Démons de Midi. Aujourd'hui, les Démons reçoivent Giulia Arduca.
Bonjour.
Oh, ça sonne, ça chante déjà.
Bon. Et c'est un mot aussi à lui tirer le portrait.
Oui, de toute façon, moi, aujourd'hui, bon. Je ne fais rien.
Eh bien, ça ne va pas être facile. Hein. Non pas parce que je ne me sens pas capable de tirer le portrait d'une jolie et souriante jeune femme, italienne de surcroît, danseuse et chorégraphe de surcroît, directrice d'une compagnie de surcroît, vive et intelligente et de surcroît, parlant un français délicieux de surcroît, faut peut-être que j'arrête les surcroît, non ?
Oui,
bon. Ça ne va pas être facile. C'est qu'il n'y a pas qu'une Italienne en face de moi aujourd'hui. Il y en a deux et vous l'avez déjà perçue. Il y a l'invité et il y a la partenaire. Et si l'une connaît la danse, l'autre connaît la musique. Et si l'une s'appelle Giulia, l'autre s'appelle Christina. Vous la connaissez ? Elle est non moins vive, non moins intelligente. Et elle parle italien. Of course. D'habitude, pour faire mon malin, je me vautre sans vergogne dans les pires excès, n'hésitant pas à bousculer l'invité en lui prêtant des traits insensés. Mais cette fois, si je me hasarde à faire une plaisanterie un peu excentrée, si je me hasarde à quelque italianisme d'un goût suspect, je vais me faire ramasser. Et la sororité aidant, italienne de surcroît, je crains que ça ne me revienne en boomerang et en stéréo. Quoi, j'ai encore dit un surcroît ? Bon, scusi. Alors, le portrait. Giulia Arduca est italienne. Ça, je l'ai déjà dit. Elle est souriante, jeune et jolie. Ça, je crois que je l'ai dit aussi. Elle est vive et intelligente. Ça aussi, je l'ai dit. Elle est danseuse et chorégraphe et directrice de compagnie. Ça aussi. Elle parle un délicieux français. Ça, vous allez vous en apercevoir. J'ai pas pris trop de risques jusqu'à présent. Il ne devrait rien m'arriver. Car, en plus, tout ce que je viens de dire est vrai. Qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Ah si ! Elle vient de créer un spectacle chorégraphique avec des femmes enceintes. Si, c'est vrai. Alors, et che cosa è questo spettacolo ?
Jean a voué un spectacle à lui seul. Nous allons demander à Giulia de réagir à ce portrait et puis aussi de se présenter en 30 secondes, comme vous voulez, même en dansant, c'est possible à la radio.
Oui, ça va être un peu plus compliqué pour ceux qui écoutent peut-être, de apercevoir ma danse. Bonjour tout le monde, voilà, je suis Giulia Arduca, je suis grenobloise depuis 4 ans et demi. J'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup déplacée à cause de cette danse contemporaine que j'ai décidé de suivre. Et voilà, aujourd'hui, ici à la radio, pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur.
Ah, mais pas que de ça,
hein.
Oh là là. En tout cas, voilà, avec la compagnie Kekosa, je mène des projets depuis 2009. Des projets qui sont toujours un petit peu particuliers, et celui-là en particulier travaille avec des femmes enceintes.
Nous allons y revenir, nous avons tout le temps.
Oui, mais dans le portrait, je n'ai dit que des choses justes.
Je vais laisser juger les autres, à part le fait que oui, je suis bien italienne, et cosa sicura 100%. Pour le reste, je ne peux pas juger.
Ah bon, bon. Bon. Alors, on commence les questions.
Ben oui. Hein.
Alors,
c'est comme ça.
Comment elle était, la petite Giulia, à Reggio, nell'Emilia ? Elle était... Déjà dansante ?
Non, elle était très timide. Elle rougissait à chaque fois que quelqu'un lui posait une question. Et surtout, mes parents, voilà, tout simplement, m'avaient mis au sport. Sauf que chaque 2 ans, 1 an, j'avais envie de changer. Je ne comprenais rien, en fait, aux jeux de sport de groupe. La balle, bon, je ne sais pas, ça m'échappait toujours des mains. La natation, j'avais froid. Le judo, j'adorais, mais bon, mon papa était déjà 3e, 4e dedans. Enfin bon, très, très spécialisé là-dedans, donc surtout pas faire comme ses parents. Et puis un jour, le patinage artistique. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ça c'est marrant, c'est intéressant. Donc avec des copines, on a pratiqué pendant 2-3 ans. Et moi j'aurais bien continué d'ailleurs. Et puis un jour, une copine me dit, non en fait l'année prochaine, tu sais quoi, on va changer, on va faire du modern jazz. Je dis, quoi, c'est quoi du modern jazz? De la danse. Je dis, d'accord, mais la danse c'est pas pour moi. Donc absolument pas destinée, la petite Julia était vraiment pas partante pour faire de la danse.
Pourquoi ?
Qu'est-ce qu'elle croyait, c'est la petite Julia ?
Moi, ouais. Alors la petite Julia a été victime de tous les stéréotypes de la danse, et notamment de la danse classique, dont beaucoup de jeunes sont encore victimes aujourd'hui, en Italie, en France, et partout en fait. Et donc je me voyais habillée en rose avec des trucs moulants, en faisant des trucs très gracieux, et je voulais surtout pas ça.
Pourtant, le patinage artistique, c'est quelque chose de ça, parce que
oui,
les costumes,
mais c'est
étaient
libre.
Roses, non ?
Non, pas du tout. je crois qu'on a joué du Pinocchio, des histoires de papillons et des choses comme ça, mais c'était plutôt coloré, puis je sentais que mon corps était libre, alors le vent, tout ça, ça me convenait bien. Et l'idée de me contraindre, en fait, je crois que ça me faisait très peur. Et puis, j'ai pas eu le choix. Toutes les copines sont parties à la danse. Et donc,
vous avez suivi.
J'ai suivi.
Est-ce que vous êtes la seule à être devenue une danseuse ou à l'être restée ?
Oui, complètement.
En suivant, on passe devant. Oui.
Et d'ailleurs, il y a très, très peu de danseurs, de femmes ou garçons qui sont devenus des danseurs. Dans ma ville, je connais qu'un autre exemple dans mon entourage. C'est une fille qui était un peu plus jeune que moi, mais qui a suivi un peu le même parcours sur la fin de mes études en Italie. Et voilà, ouais, c'est à Reggio Emilia, on ne devient pas danseur.
Mais ça a été déterminant, ce début de la danse. Ça,
oui.
ça vous a mis sur le chemin de « je serai une danseuse ».
Non.
Ah.
Alors, le début a été déterminant, puisque pendant un an, je n'ai rien compris. voilà, c'est très simple. J'étais devant un miroir tous ces après-midi et je trouvais ça un peu bizarre. Il fallait compter sur une musique, il fallait faire tous pareil. Et puis les costumes, cette création de costumes pour le gala de fin d'année, c'était un truc. Je comprenais pas du tout le fonctionnement de cette chose. Et puis petit à petit, en continuant, j'ai compris juste par moi-même, parce que personne ne me l'avait vraiment expliqué, que je pouvais m'amuser avec mon corps à rentrer dans des chemins autres que ceux du quotidien. Et surtout, je pouvais inventer. Et donc, cet espace de créativité, pour moi, était une révélation. Et donc, j'ai commencé à en demander de plus en plus, et donc à suivre un deuxième cours de modern jazz, et puis un cours de hip-hop, qui à l'époque était un cours très intéressant. C'était un garçon qui venait des States, qui ramenait les nouvelles techniques de standing, donc de danse debout, qui était donc très rapide, très énergétique, très masculine peut-être aussi. Et donc il y avait aussi des garçons dans notre groupe, et je trouvais ça super intéressant de travailler le corps autrement, l'espace autrement. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais être peut-être une autre personne au cours de danse, en tout cas jouer avec le transformisme quelque part. Et le corps commençait à suivre, commençait à comprendre comment ça marchait. J'étais très souple, apparemment j'avais de l'oreille. Bon, c'était plutôt naturel en fait. Voilà, ça c'est ce qui a permis ensuite, petit à petit, de me rendre compte que j'avais besoin de techniques pour comprendre encore plus comment le corps pouvait marcher, notamment, je me rappelle, cette fameuse séquence de tours, d'enchaîner, qu'on devait vraiment tourner d'un bout à l'autre de la pièce, non-stop, et je comprenais rien. Je comprenais absolument pas pourquoi l'enseignante ne nous expliquait pas les secrets pour le faire. Il fallait juste le faire. Et donc, je me disais, OK, mais là, je vais nulle part, j'ai besoin de plus de techniques, il faut que je répère les ficelles qui tiennent ce que nous demande cette prof. Et donc, à ce moment-là, un danseur classique de Milan arrivait à Reggio Emilia pour commencer des cours de danse classique dans cette petite école, vraiment toute, toute petite école amateur. Et il m'a vu danser dans un cours et il m'a dit, écoute, j'ouvre un cours pour des filles qui ne sont pas des petites filles, mais des adolescentes comme toi. Je pense que tu devrais venir. C'est vraiment pas dans l'idée de devenir danseur classique ou de vous faire danser des grandes variations, mais vraiment juste l'idée de vous donner des outils de techniques.
Ce que vous recherchiez.
Oui.
Donc, et changement du coup, d'école.
Non, dans la même école, en fait, il y avait un après-midi en plus par semaine avec
mais
ce garçon.
Mais c'était tous les jours.
Le modern jazz et le classique.
Et le hip-hop dans la même petite école de province. En Italie, ça se fait beaucoup. On fait du minestrone partout. Enfin, je veux dire, on mélange tout. Donc, on arrive à 14h30 et puis voilà, on peut suivre du n'importe quoi jusqu'à n'importe quelle heure. Et voilà, c'est vraiment pas très sérieux, mais pour le coup, ce prof que j'aime vraiment remercier encore aujourd'hui et qui est un copain, Mauro Guadalupe, m'a mis sur les bons chemins. Et donc, j'ai commencé à prendre cours de classique aussi avec lui et très rapidement, il m'a ouvert les portes du métier et en tout cas, il m'a laissé, il m'a formé et il m'a donné vraiment ce goût de la création, mais d'abord par la connaissance du répertoire.
Donc, ce qui vous a amené à quitter Reggio.
Si.
Pour partir du côté de Milan d'abord.
Oui, ouais. En fait, pour me former.
On peut peut-être dire où c'est Reggio Emilia.
Si, Reggio Emilia, c'est une toute petite ville entre Parme et Modène, dans la plaine du Nord.
La meilleure cuisine du monde.
Oui.
Donc, la meilleure danse, sûrement.
Alors, il y a plein d'autres régions, j'avoue. Il y a plein d'autres régions en Italie où on mange très, très, très bien. En Emilia-Romagna, on mange très, 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 très bien, notamment les pâtes, de toute façon. Voilà. Mais oui, donc, c'est une toute petite ville. Ça n'a rien à voir par rapport à Bologne, où peut-être j'aurais pu me former, par exemple, si j'étais née là-bas. Mais voilà, à Reggio Emilia, il faut partir. Et donc, le choix de me former professionnellement, déjà, c'était un moment très douloureux et très difficile.
Pourquoi douloureux ?
Douloureux parce que personne ne voulait que je fasse le métier, personne ne me soutenait, au-delà de Mauro Guadalupe, qui était donc mon grand maître danseur classique. Ma famille ne comprenait absolument pas pourquoi, en ayant de si bonnes notes à l'école, je veux.
Et voilà. Votre père, troisième ou quatrième dan, ne vous a pas alors fait une immobilisation ?
Non, il était plutôt. Il a plutôt laissé faire, façon aïkido, je crois. Mais c'est un peu sa faute. Il m'avait mis au yoga à 16 ans, il m'avait ouvert les portes du shiatsu également. Donc je crois qu'il y avait aussi plein d'autres disciplines et savoir-faire et peut-être philosophie qui étaient arrivées dans ma vie et qui me faisaient vraiment prendre conscience du fait que j'en étais sûre, c'était ma flamme et il fallait la suivre. Donc
vous les avez quittés sans leur consentement, sans leur autorisation.
Ah oui, tout à fait. Oui, non, c'était vraiment contre ma famille. Un petit peu moins contre mon père, parce qu'il a quand même dit, OK, essayons de voir si vraiment tu veux le faire, si tu peux le faire d'abord. Effectivement, il fallait être choisi, il fallait passer deux auditions, et voir si j'avais un niveau suffisant et du talent pour pouvoir continuer. Et voilà, la vie a fait que les portes s'ouvrent. Donc, une première formation à Milan, une formation professionnalisante. On faisait beaucoup, beaucoup d'activités très différentes, du chant au théâtre, à plein de disciplines différentes de danse, jusqu'aux claquettes, que j'avais jamais fait de ma vie. Bon, voilà, je suis passée par là aussi.
Ça se mélange plus, vraiment, c'est le minestrone. Là-bas.
C'est le minestrone en Italie. Voilà,
c'est possible de mélanger les disciplines plus qu'ici en France.
Disons que elle les mélange pas tellement sur scène ou dans la création, mais en tant que danseur, tu peux te former à plein de disciplines différentes et sans jugement d'ailleurs. Tu peux faire de la danse classique et puis l'après-midi faire des claquettes et du musical et de la danse contemporaine et voilà, pourquoi pas.
Donc c'était pratiquement voilà. Danse à plein temps.
Oui, c'était vraiment la première année à plein temps.
Et quand vous ne dansiez pas, qu'est-ce que vous faisiez?
Je faisais à manger. Je faisais du pain à la main. Corps. Et puis je me rappelle que j'avais des colocataires, donc c'était ma première expérience de vie hors ma famille. Et donc on passait aussi beaucoup de temps à échanger, à comprendre comment fonctionnaient les mondes, déjà en discutant entre nous. Et puis petit à petit, voilà, une deuxième formation à Florence, puisque je sentais que l'école de Milan ne pouvait pas me donner tout ce dont j'avais besoin, et notamment j'avais compris que la danse contemporaine était vraiment pour moi, et que donc il fallait absolument que j'aie un niveau le plus haut possible pour partir ensuite à l'étranger. Puisqu'entre-temps, voilà, l'année à Milan m'avait fait aussi comprendre que l'Italie, c'est l'Italie.
Qu'est-ce que à ça Milan? Veut dire?
Eh ben, c'est-à-dire que c'est un pays formidable, mais pas pour les jeunes, pas pour les artistes, enfin, en tout cas, pas aujourd'hui pour les artistes. Et donc, pour pouvoir en vivre un jour, il fallait absolument être ailleurs. Et aussi, pour avoir une formation sérieuse, il fallait partir ailleurs.
Voilà. Pas de statut d'intermittent, par exemple. Évidemment, en Italie, il ne faut pas rêver.
Non. D'ailleurs, je peux vous raconter cette petite anecdote. Quand on va refaire sa carte d'identité, la dame vous demande profession. Et un jour, donc, je vais la refaire et je lui dis danseuse. Et il me dit pardon. Et je lui dis danseuse. Et il me dit ah, vous voulez dire ballerina. Donc, ballerine. Et je lui dis ben non, vous savez, en fait, je ne fais pas de la danse classique, je suis professionnelle, mais je suis dans le milieu de la danse contemporaine. Donc, danseuse, danzatrice. Et elle me dit attendez, un moment. Et elle regarde dans son ordinateur. Et ça, voilà, la surprise, ce métier n'existe pas dans l'ordinateur carte d'identité italienne. Donc, ça la raconte bien, je trouve. Voilà, c'est pas vraiment considéré comme un métier. Et donc, voilà, évidemment, les inquiétudes de ma famille étaient à propos. Hein, voilà. Mais voilà, du coup, l'intention tout de suite, de, très rapidement en tout cas, de partir d'Italie.
Et pour qu'est-ce pouvoir, qui fait que vous ayez choisi Amsterdam?
Ah, c'est Amsterdam qui m'a choisi.
Ah.
Ça veut dire que, à la suite de cette année à Florence, j'ai passé différentes auditions dans différentes grandes écoles européennes. D'ailleurs, je n'avais pas sélectionné la France. À l'époque, on n'avait pas encore beaucoup d'Internet. On passait vraiment par des connaissances, des bouche à oreille, tout ça. Et les écoles étaient plutôt en Allemagne, en Autriche, Hollande et Belgique. Donc, je commence à passer les présélections, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veut y accéder. Et souvent, les présélections sont un moment de l'année. Et puis, les finales, les moments vraiment de choix, sont un autre moment de l'année. Donc, d'abord, il faut passer les premières phases. Et les premières phases Amsterdam, en fait, étaient les premiers 4 jours de la semaine. Et si on était sélectionné, ben, on passait à la phase finale les derniers 3 jours. Et autant j'avais été présélectionnée dans d'autres écoles pour les phases préliminaires, autant Amsterdam, ben, vu que tout était la même semaine, ben, je suis arrivée au bout. Je passe un entretien avec les profs, le dernier moment de la dernière journée. Et une heure plus tard, je sais que je suis acceptée. Et j'avais tellement adoré en fait ce processus et les enseignants et le bâtiment. Il faut penser que c'est un bâtiment à 8 étages où tous les métiers en fait du spectacle vivant, les futurs artistes se forment. Donc on avait à disposition une sorte de bain incroyable. Enfin en tout cas ça me paraissait incroyable en venant d'Italie. C'était une formation au niveau universitaire, donc ça me permettait aussi d'avoir un certain
bagage. Pour faire plaisir à maman.
Voilà. Oh, non, pour juste dire que voilà.
Environnement, ambiance.
Et puis vous y enseignez aussi le théâtre, parce que oui, c'est ce tout que à vous fait. Voyez sur votre, sur oui, votre oui. bio, c'est le Conservatoire National Supérieur de Danse et de Théâtre d'Amsterdam.
Oui, oui, effectivement, on avait des cours assez poussés aussi en théâtre. Théâtre corporel, par contre, d'ailleurs, en Hollande... Voilà, il y a une grosse...
On ferait peut-être mieux de choisir une autre entrée en demandant « Mais qu'est-ce que vous n'avez pas appris ?»
Ce que je ne sais pas encore, donc beaucoup de choses.
C'est et vraiment... cela, ça a duré combien de temps, Amsterdam et cette expérience ?
4 ans.
Waouh, longue
C'était
étude.
Mon service militaire, je le dis comme ça.
Pourquoi ça a à voir avec le service militaire ?
Ah oui, parce que c'était très dur.
Ah oui, très abrutissant.
J'ai jamais fait du service militaire, mais je crois que ça pourrait ressembler à ça. Non, c'était très inspirant et enrichissant et une vraie ouverture au monde. Et puis au monde de la création, évidemment. Mais physiquement, on avait trop de travail. On commençait le matin à 9h. On avait un cours de classique et un cours de contemporain tous les matins. Et ensuite, et parfois aussi du cardio training. Donc ça veut dire une demi-heure de travail très physique pour pousser les muscles, le cœur, aller plus loin. Et puis l'après-midi, on recommençait jusqu'au soir à 19h.
Et pour nos auditeurs qui connaissent peut-être pas trop la danse et la différence, est-ce que vous pourriez en deux mots nous dire ce qu'est la danse classique pour vous ? Est-ce que vous en avez appris ? Est-ce que c'est que la danse contemporaine ? Parce que...
Oui.
Alors, c'est la danse d'aujourd'hui, la danse de demain ?
Oui. Alors d'abord, je vais répondre par des notions historiques. Ça veut dire que la danse classique était le fruit d'une volonté des élites de se mettre en avant par quelque chose de savant qui passait par le corps. Donc le roi Soleil, Louis XIV, et puis tous les nobles, en tout cas, qui ont commencé à réfléchir à comment éduquer le corps des jeunes enfants à quelque chose d'élégant, beau, qui allait impressionner. Donc petit à petit, ce langage de danse classique s'est façonné jusqu'à arriver à l'apothéose du ballet classique romantique en 19e siècle avec l'école russe, l'école italienne, l'école française. Et ensuite, donc on connaît tous le Lac des Cygnes, par exemple. Ce sont des ballets qu'on appelle de répertoire, qui ont été créés par des chorégraphes danseurs classiques et qui ont évolué un petit peu dans le temps, mais qui restent tels quels aujourd'hui. Donc, si on va à l'Opéra Garnier à Paris, on trouve le Lac des Cygnes et donc le fondamental de la danse classique. Le danseur classique, femme, homme, va toujours vers le haut. Il s'élève, il cherche à s'échapper du sol. Tout le travail des jambes est travaillé en dehors, donc en ouverture. Pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, ça veut dire, comme ils disent les enfants, en pied de canard. Voilà. On a aussi quelque chose de très codifié pour les bras. Ça veut dire que très rarement, un bras peut faire une ligne ou casser, en tout cas, la ligne du coude. Donc on est toujours dans un arrondi du bras.
Nos auditeurs vous regardent, il n'y a pas de souci.
Et puis on est plutôt sur une technique qui travaille par géométrie. Donc l'arrondi des bras et des lignes plutôt dans les jambes. Et le buste qui a peu de possibilités, en tout cas il a une courbe, ce qu'on appelle un cambré, donc cette ouverture du dos vers le haut. Très peu de cambré renversé, dans ce qu'on appelle en danse contemporaine une courbe, donc de sommet du crâne qui se plierait vers la terre, on va dire. Donc il y a quelque chose de très rigide au niveau du buste et le travail du centre est très 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 puissant. Donc on saute vraiment par le centre, la zone abdominale autour du nombril. Donc ça donne une danse assez codifié, on n'a pas vraiment d'espace pour inventer. Il y a une petite marge d'interprétation, mais même à l'intérieur de ce ballet classique, les rôles sont finalement assez réduits. Donc prince, princesse, roi, reine, jeune fille, esprit dans le bois, les jeunes vierges mortes de chagrin dans les bois.
Vous êtes sortie du bois.
Oui. Et d'une corps aussi d'une jeune fille. Mais en tout cas, voilà, la danse contemporaine.
Ça, c'est la danse classique. Et alors, la danse contemporaine,
voilà. C'est quelque chose, donc, déjà, à niveau hystérique, historique, qui était hystérique parfois, et qui l'est encore aujourd'hui. Mais historiquement, voilà, on a eu donc des danseurs au début du XXe siècle et qui commencent à jeter littéralement à la poubelle le tutu, le juste au corps, les pointes, et ils commencent à expérimenter avec des danses libres, ce qu'ils appellent danses libres, donc libérées de tous ces codes finalement. Et puis petit à petit, d'autres danseurs commencent à réfléchir à comment on pourrait structurer, codifier un langage corporel autrement. Donc pas d'arrondi de bras par exemple, pas d'en dehors dans les jambes, qu'est-ce qui se passe si on travaille avec le parallèle, qu'est-ce qui se passe si on exprime n'importe quelle émotion, si on ne devient plus un personnage, mais on est plutôt un état de corps ou une matière. Voilà, donc il y a une ouverture du possible jusqu'aux années 70. Toute cette époque, 1900, 1960, 70 à peu près, on l'appelle donc modern dance. Martha Graham, Merce Cunningham, Joseph Limon, etc. Et puis, petit à petit, dans les années 60-70, la rébellion, un peu dans tous les milieux culturels et de la société, font qu'on va encore plus loin et on jette encore plus à la poubelle ces autres codes que la modern dance avait créés. Et donc, on ouvre encore du possible, on s'ouvre à la performance, on ouvre à des spectacles qui sont plutôt des enchaînements de partitions. Par exemple, amener le matelas au milieu de la scène. Tous les danseurs se jettent sur le matelas, tous les danseurs sortent du matelas. Ensuite, ils marchent 5 pas, ils vont au sol, ils y restent 1 minute, ils remontent au sol et ils font 3 sauts, bon, par exemple. Donc ça, c'est vraiment l'origine de la danse contemporaine. Et puis de là, donc aujourd'hui, on est dans une profusion de formes, de langage aussi qui se mélange. Donc parfois, on a de la vidéo qui se mélange à de la réalité numérique, qui se mélange à des langages plutôt classiques ou hip-hop hybridés. Parfois, on a de la musique live sur scène, parfois enregistrée, parfois on est en silence, parfois on est nu, parfois on a un costume, parfois on est habillé comme dans la rue, parfois, etc., etc. Donc aujourd'hui, décrire qu'est-ce que c'est la danse contemporaine et comment danseurs contemporains y travaillent. Voilà, les danseurs contemporains ont la possibilité d'aller vers le haut, vers le bas. Il a la possibilité de performer quelque chose de très structuré par une chorégraphie, ou à l'inverse, de performer une œuvre qui est plutôt le fruit d'improvisation ou de partitions imposées par le public dans des dispositifs interactifs, par exemple. Voilà, disons qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités.
C'était un très très beau cours. Hein. Bien, bon. Ah ouais, vraiment. Alors, merci.
Contrairement aux apparences, vous n'avez pas assisté à un cours sur la danse, sa vie, son œuvre, mais vous êtes en train d'écouter l'émission Les Démons de Midi sur Radio Campus Grenoble 90,8 qui accueille aujourd'hui, comme le hasard fait bien les choses, Giulia Arduca qui est justement danseuse et chorégraphe. Qui l'aurait deviné?
Alors, ça veut dire que on passe à un autre moment de l'émission?
Un petit moment musical,
oui. ça vous paraît bien?
Peut-être, oui.
Alors,
peut-être.
Alors, Giulia, nous vous avons demandé d'apporter, de choisir un morceau qui vous accompagne en ce moment, que vous aimez écouter, peut-être depuis toujours, et de nous le faire partager. Est-ce que vous voulez bien l'annoncer ou le désannoncer?
Oui, Bombino Tarhane.
On écoute.
Présentation, mais maintenant, commentaire.
Commentaire sur ce qu'on vient d'écouter?
Oui, pourquoi celui-là?
Pourquoi cette musique?
Alors, c'est une musique du désert, des Touaregs du désert, des Nigériens qui ont été contraints à beaucoup migrer et s'échapper pour survivre. Et voilà, peut-être il y a plein de raisons. J'ai jamais vraiment été dans les déserts, j'étais au Maroc et mes grands-parents, les deux grands-parents paternels et maternels, donc ils ont eu des histoires fortes avec le désert et le Nord-Afrique. Et quand j'ai découvert ce CD, Bombino, je ne sais pas, ça m'a porté, ça m'a peut-être parlé de mes grands-parents. Et puis tout simplement, c'est une musique qui me met de bonne humeur et qui me fait groover. Et ça, j'aime bien.
Groover. Madame groove.
Voilà.
Madame bouge aussi.
Oui.
Vous avez traversé les frontières.
Oui.
Beaucoup de frontières.
Une question que je ne veux pas oublier. Quand,
enfin.
Pourquoi, en un mot et en deux mots, vous avez appris le français?
Ah. Quand, donc au collège. Pourquoi? Parce que mes parents avaient décidé que le collège, là où je devais partir, là où je devais aller, qui était pour le coup près de mes grands-parents, pour qu'ils puissent me garder l'après-midi. Bref, il avait une très bonne classe, enfin, les enseignants étaient super, mais voilà, c'était une classe de français. Et donc, tout simplement, ils avaient décidé que dans le collège, je ne ferais pas de l'anglais, je ferais du collège, du français pour, voilà, pour avoir des bonnes profs. Mmh. Et Simone Aponticelli, je m'en souviens encore, c'était une super prof, elle nous faisait chanter, elle était très gaie, une dame tout à fait atypique. Et voilà, donc en 3 ans, j'ai appris les bases et puis au lycée, je fais que de l'anglais. À Amsterdam, je parlais anglais tous les jours, mais je voyais les petits prospectus belges, des représentations ou des théâtres. Et je prenais vraiment du plaisir à reprendre mon petit français. Et voilà, et en 2007, quand je suis arrivée en France, j'ai réouvert ma grand-mère du collège avec la famille Lebrun qui allait en vacances à Cassis. Et j'ai pris vraiment du plaisir à relire tout ce bouquin. Et voilà, et après...
Ce qui veut dire qu'après Amsterdam, ça a été la France. Vous n'êtes pas retournée en Italie.
Ah non, oui. Non. Après Amsterdam, 4 ans, je suis arrivée directement en France.
Et pourquoi pas en Autriche?
Ah, parce que j'avais besoin de pays latins. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je n'ai pas exploité, entre guillemets, mes contacts sur Amsterdam. Je n'ai pas continué à vivre là-bas. Je me suis dit, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe plus au sud. Et j'avais vu des pièces de chorégraphes français qui m'avaient bien intéressée, que je trouvais très nuancées, très sensibles. Et donc voilà, tout simplement, je suis arrivée à Lyon et j'ai commencé à habiter en France. Mmh.
Alors nous, vous posons beaucoup de questions, mais nous avons une autre question, venue d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle dans cette émission. Il s'agit de demander à quelqu'un... une personne à laquelle vous faites absolument confiance, de vous poser la question qu'il ou qu'elle voudra, et il faudra y répondre maintenant à la radio. Donc la personne que vous avez choisie est Nicolas Hubert. Vous allez nous présenter cette personne, écouter sa question et surtout y répondre. Qui est Nicolas Hubert?
Alors Nicolas Hubert, danseur, chorégraphe et plasticien. Il travaille avec la compagnie Epiderme ici sur Grenoble. C'est un fidèle collaborateur pour différents projets que j'ai menés, mais aussi pour des projets qu'il a menés. Là, par exemple, sur la dernière création, Prégnance, que je joue en ce moment, il est à Régal Extérieur. Et ben, j'espère qu'il s'est bien tenu.
On écoute sa question extérieure.
Alors, Julia, je voulais te demander, par rapport à ce projet, qu'est-ce que ce projet t'a appris que tu ne connaissais pas avant?
Alors, quand il parle de projet, il parle du projet Prégnance.
Oui, j'imagine.
J'imagine
aussi, puisque c'est un peu l'actualité en ce moment. Alors, ce projet m'a appris encore plus, je dirais, à faire confiance au corps, puisque c'était déjà mon grand plaisir et ma grosse découverte depuis que j'ai commencé à étudier la danse, mais à renouveler vraiment cette conviction que j'avais déjà touché du doigt, mais encore plus profondément, voilà, toujours observer, être à l'écoute du corps et lui faire confiance. Lui, il sait les chemins.
Même quand on ne danse pas?
Oui, même quand on ne danse pas, ben là, par exemple, à la radio, vous avez une posture, vous avez une qualité de regard, vous habitez votre corps d'une façon unique, et donc vous êtes en train de danser, pour ce qui me concerne.
Oh, j'ai presque envie de silence ou de danse. Mais non, il faut continuer à questionner.
Oui, il faut continuer à la questionner.
Alors, vous écoutez Les Démons de Midi, c'est toujours vrai. Nous accueillons Julia Duca, qui est donc danseuse et chorégraphe. Et nous poursuivons cet entretien. Alors, nous sommes au cœur d'une création, d'une procréation, d'un processus de création que vous avez appelé prégnance. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors,
comment s'écrit ce mot et qu'est-ce qu'il signifie ?
Prégnant, c'est un mot français. D'ailleurs, j'ai failli choisir un autre mot pour ce projet qui est gravidanza, qui est un mot italien. Et je crois que je vais le garder comme sous-titre d'ailleurs. Et gravidanza en italien veut dire la danse de la gravité. Et je trouve ça très beau parce qu'en fait, ça veut dire grossesse.
Oui, gravidanza. Voilà, gravide.
Voilà. Oui. Et finalement, j'ai choisi prégnance parce que en français, quelque chose de prégnant est quelque chose de fort, de marquant. On pourrait presque dire d'impressionnant. Mmh. Et je trouve que cet état de corps, le corps qui porte la vie, la grossesse, marque pour toujours une femme.
En anglais, c'est pregnant.
Yeah. Et donc, il y avait aussi effectivement une consonance, ou en tout cas, voilà, ça pouvait prêter à, voilà, à une transversalité de langage. Et puis peut-être ça peut ouvrir aussi déjà un imaginaire sur ce qui pourrait être le projet en lui-même.
Et alors, pour continuer à filer la métaphore, quelle a été la genèse ? Comment est-ce que vous vous êtes dit « je voudrais que des femmes enceintes dansent » et pourquoi ?
Oui, alors la genèse est toujours très 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 difficile à remonter si on cherche vraiment l'origine, la première
ça
graine.
Ça dépend de quoi on parle.
Tout à fait. Mais dans le cas de ce spectacle, il y a eu plusieurs raisons. Je me souviens très bien d'un soir, je vais au Grand T à Nantes, il y a une mise en scène d'un metteur en scène estonien. 10 acteurs et actrices sur scène qui traversent toutes les époques, on va dire, entre les années 50 et les années 2000. Et puis, à un moment venu, bon, ben voilà, il y a une scène d'accouchement, donc les femmes tombent enceintes, donc des jolis coussins glissés sous le ventre, et hop, c'est réglé. Et je me suis dit, ah oui, oui, effectivement, on met un coussin, ok. Et puis, j'ai revu ça à plusieurs reprises dans d'autres pièces. Et je me suis vraiment demandé pourquoi on ne pouvait pas aller se frotter au réel, en fait, pourquoi on n'avait pas le droit de montrer une femme enceinte sur scène. Ensuite, je travaille dans d'autres compagnies de danse et une des danseuses collègues tombe enceinte. Donc, bon, bah voilà, panique à bord. D'abord, vraiment, tout le processus est mis en péril. Et ensuite, remplacement au plus vite parce que tu imagines, elle ne peut pas danser enceinte. Ça ne le fait pas. C'est pas esthétique. Bon, voilà, plein de raisons. Et donc, deuxième moment de silence. Et puis par la suite, voilà, je découvre les chiffres de la SACD 2016, publiés par la SACD donc, sur la représentance des femmes dans le milieu du spectacle vivant. Et là, je découvre que il y a moins de 30% de créateurs, metteurs en scène femmes et moins de 40% chorégraphes. Et là, je me dis, ok, donc on vit dans un milieu à prévalence masculine, qui peut-être oriente les propos, oriente en tout cas, donne une direction à la mise en scène. Et tout ça, plus ma curiosité vers le corps qui n'arrête pas de croître depuis des années, je me suis dit...
Croître,
oui, dans ce cas. Je me suis dit, mais ok, j'ai jamais été maman, mais je observais autour de moi des femmes bouleversées par cette expérience à la grossesse. J'observais ces corps, encore hier dans la rue. C'est tellement impressionnant et incroyable de pouvoir observer tout simplement une femme enceinte qui marche dans la rue. Comment ça s'organise le corps, vraiment le rapport à la gravité, le rapport à l'axe. Et puis du coup, cette fameuse ouverture ou pas, à l'intérieur ou pas des jambes, et puis voilà, tout le reste, organisation de la colonne, etc. Donc vraiment cette curiosité pour comprendre comment ça marche, de façon très physique, très sensible aussi. Et donc l'envie de, pour reprendre un autre anglicisme, je ne sais pas si ça se dit, de zoomer, l'envie de zoomer sur cet état de corps. que voilà, j'avais jamais expérimenté en prémisse, donc l'envie aussi de créer un projet partagé où je détenais pas tout le savoir, mais on mettait en commun.
Et alors, vous vous êtes mise à la rencontre, à la recherche de femmes enceintes, mais pas de femmes enceintes danseuses, parce que vous auriez pu choisir de danser, de faire danser des danseuses enceintes. Tout à fait. Ce n'était pas votre propos non plus.
Non, j'avais envie de travailler avec le corps qui sait à l'état brut. Donc, une danseuse, une comédienne, une circassienne, on a déjà beaucoup, beaucoup de notions en nous. On a travaillé beaucoup trop, peut-être, le geste. Et on a plein de ruses pour être sur scène, par rapport au regard, par rapport au projecteur, par rapport à la gestion du stress, par rapport à l'image qu'on a de nous, qu'on envoie, etc. Et moi, j'avais envie de travailler avec Madame Lambda.
Sans ruse.
Sans ruse. Qui, par contre, voilà, a cette expérience prégnante, forte de la vie qui se développe en elle. Et puis voilà, se retrouver vraiment à mi-chemin. Moi, je pouvais apporter tout mon savoir-faire de mise en scène, de danseuse, de performeuse. Et puis, voilà, voir qu'est-ce qui pouvait être mis en commun, comment elle, ces femmes pouvaient m'indiquer la route, en fait, pour travailler avec ces corps. Enceinte. Parce que quelque part, j'avais l'impression aussi que travailler avec des professionnels, ça allait être pas tellement juste, puisque une danseuse qui est enceinte connaît déjà beaucoup de choses de son corps et connaît aussi beaucoup de choses de l'expression, de la création, de la danse. Et du coup, j'étais pas sûre que j'allais pouvoir trouver des pépites. Ou en tout cas la pépite qui est peut-être en chacun de nous, ce potentiel expressif qu'on a tous, qu'on soit assis à la radio, ou qu'on marche dans la rue, ou qu'on soit sur une scène finalement. Voilà.
Et alors, où êtes-vous allé les chercher? Dans la rue?
Non. Ça, c'était la première
question. Est-ce que vous les regardez dans la rue?
Oui, ça c'était la première question, effectivement, où est-ce que je vais pouvoir trouver des femmes enceintes? Et en étant sur Grenoble, je me suis dit, ok, c'est une maternité, et une maternité publique, l'hôpital public, donc le CHU. Il y a plus de 3000 naissances par an, donc a priori, je vais rencontrer des mamans.
Ils sont faits, les petits. C'est avant.
Oui, mais puisqu'ils suivent autant de femmes, je me suis dit, s'il y a 3000 petits qui naissent tous les ans, il va y avoir autant au moins de mamans enceintes. Voilà.
Donc, alors, il y a eu des auditions.
Non, pas vraiment. J'étais auditionnée plutôt, puisque c'est assez atypique en fait de proposer un projet de ce type. Enfin, déjà, c'est un projet qui n'a jamais été réalisé à ma connaissance. Mais en tout cas, même si le CHU ici à Grenoble est, disons, très ouvert et il accueille en résidence différents artistes, personne n'avait jamais vraiment travaillé avec le public de femmes enceintes. Donc je suis allée rencontrer les cadres de la maternité et voilà, ça s'est bien passé. Elles étaient très enthousiastes. D'ailleurs, il y a une majorité de femmes à la maternité du CHU, à l'hôpital couple enfant. Et donc voilà, j'étais écoutée peut-être de femme à femme. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé de façon un peu magique. Et voilà, ils m'ont ouvert la porte... pour pouvoir m'imprégner déjà de leur travail, de leur réalité, donc les préparations à l'accouchement. J'ai pu aussi aller assister et regarder des accouchements avec des couples donc, qui étaient volontaires, qui voulaient bien que je sois là. Et puis petit à petit, voilà, les premiers ateliers avec des femmes enceintes de Grenoble et de l'Aglo. Concrètement, le CHU m'a fourni une salle où je pouvais amener ces recherches et puis aussi un financement qui m'a vraiment permis de démarrer le projet.
Mais en même temps, c'est un état qui ne dure pas. Comment est-ce que vous travaillez et avec quelles femmes qui doivent être enceintes de combien de semaines? c'est presque médical, votre affaire.
Et c'est pour ça que j'ai commencé par le médical, d'ailleurs. Donc, j'ai commencé à interviewer des sages-femmes et presque de me former au sein du CHU. Très rapidement, j'avais déjà eu l'intuition, mais très rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'une femme enceinte soit déjà enceinte de 3 mois pour que...
Vous vouliez qu'on le voit. nous, les spectateurs, ou pas ?
Non, enfin, oui aussi, mais c'était plutôt quelque chose de l'ordre de la mise en route du projet de grossesse, aussi d'éviter certains risques qui peuvent avoir lieu voilà, sur les premières, le premier trimestre, mais aussi tout simplement parce que avant cette première échographie du troisième mois, c'est un peu flou. Ça peut rester flou aussi par la suite, mais en tout cas, c'est plus concret à partir de cette première échographie. Et donc, le corps commence à accepter et à prendre en compte cet autre être qui est en lui. Et donc, au niveau aussi de l'expressivité, de la créativité, une femme est plus connectée, on peut dire, et plus voilà, réceptive. Donc, j'ai demandé voilà, tout simplement avoir... à rencontrer des femmes enceintes à partir du troisième mois de grossesse jusqu'au dernier jour avant l'accouchement. Oui. C'est possible. Et ça s'est vraiment produit.
Donc, vous jouez avec cette incertitude, c'est-à-dire qu'il se pourrait que sur scène...
Ah non. Ça, je peux vous dire... qu'un accouchement ne se produit pas d'une façon si rapide. Donc, non, sincèrement, une femme sait que ça va arriver. Il y a plein de signaux et l'énergie qui tombe est un des signaux préparatoires à l'accouchement. Pour certaines femmes, ça arrive une semaine avant, pour certaines femmes, 2 semaines avant, pour certaines femmes, 4 jours avant. Mais c'est vraiment assez en amont. Et puis ça aussi correspond... les contractions et tout le reste.
Ça ne correspond pas à mon expérience personnelle.
Ah.
Si je puis m'exprimer ainsi.
Mais peut-être que vous n'étiez pas suffisamment comment dire, dans le corps de celle qui a vécu la chose. En tout cas, bon, je prends vraiment beaucoup de temps avec ces femmes et tous les jours, je leur demande comment elles vont, comment elles se sentent, comment va leur corps. Mais surtout, je les observe.
Et vous créez avec elle.
Et je crée avec elle.
Vous en avez rencontré beaucoup,
oui.
Et vous n'en avez gardé que quelques-unes.
Alors, si c'était pour moi, je les aurais tous gardées. Donc, depuis décembre 2017, le démarrage des premiers ateliers, on a rencontré plus de 50 femmes grenobloises et de l'agglo. La majeure partie, donc, effectivement, ont déjà accouché. Mais c'était vraiment des ateliers. Ce qu'on a mis en place, c'était des ateliers pour s'imprégner de leur état, pour expérimenter avec elles et créer une partition. Une partition qui pouvait donc être transmise à n'importe quelle femme de cette planète en très peu de répétitions pour pouvoir jouer le spectacle Prégnance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le groupe que j'ai eu en janvier, donc en janvier notamment à Crawl, ici en 2019, il a pu jouer la partition assez rapidement, donc en 10 répétitions, le 9 février. Et donc ces femmes-là étaient bien enceintes, on en avait certaines qui étaient un peu en suspension puisqu'elles allaient accoucher fin février, donc voilà, c'est là où je disais que j'ai observé beaucoup et... Effectivement, il y a une maman qui a accouché 2 jours avant le spectacle. Mais c'était prévu. Enfin, je veux dire, je le savais quand je l'ai vue arriver à J-6. C'était après le week-end, c'était un lundi. Je savais. Elle n'était plus la même. Et donc, voilà, ça n'a pas raté. En tout cas, je veux absolument pas mettre en péril leur santé ou prendre de risques. Ou leur faire prendre des risques. C'est pour ça qu'elles ne portent aucune responsabilité sur ce projet. Nous, du côté de la compagnie Gekosa, on assure la partie vraiment d'obligation de résultat, j'ai envie de dire. Et elles doivent être juste à l'écoute de leur corps, seconde après seconde. Et à n'importe quel moment, elles peuvent arrêter le processus. Et ça, pour moi, c'est très important. De l'autre côté, voilà, moi, j'essaie d'apporter vraiment toutes mes connaissances et ma sensibilité pour pouvoir aussi dire « Ok, stop, à ce moment-là, c'est peut-être pas prudent. Voilà. Si une femme n'arrive pas à s'écouter, que je puisse le sentir. »
Et en même temps, Julia, vous avez l'obligation du résultat. On vous attend en tant que chorégraphe sur le plateau.
Oui, mais ça, c'est le jeu.
Avec un objet, ou du moins...
Tout à fait.
Oui, un objet artistique.
Oui, et ça, c'est le jeu. Depuis n'importe quel... quel projet, on commence à le monter, on va chercher des partenaires, on a un dossier qui est très théorique, mais on le vend par rapport à tout ce que, toute l'idée qu'on s'est fait de ce projet sans être pas très loin parfois dans les recherches. Et on a cette obligation de résultat là, d'arriver au jour J avec une forme. Parfois on y arrive, d'ailleurs parfois on est moins satisfait, mais ça c'est notre travail, on travaille sur de la recherche, j'estime qu'on fait de la recherche en fait.
Ce qui fait que vous avez réuni des femmes enceintes, mais aussi des artistes autour d'elles.
Oui.
Qui est-ce qui vous accompagne?
Oui, alors je suis là vraiment pour le côté mise en scène, chorégraphie, et tout ce qui est vraiment l'espace, le corps. Et puis Marc Pichard aux Lumières, et Pascal Tollet à la création sonore, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup accompagnée sur les ateliers depuis mars 2018 et qui est donc venue s'imprégner du travail, mais aussi interviewer pas mal de femmes. Donc on a essayé de capturer sur le vif leurs sensations, leur parcours, leur vécu, leur réalité, et parfois aussi des petits secrets qu'ils voulaient bien nous livrer. Pour créer donc toute une matière sonore qui nous permet en fait d'avoir une partition sur scène qui ne demande pas aux femmes qui jouent de parler. Donc voilà, c'est plutôt une présence corporelle sans la voix, et la voix est portée par certains enregistrements qu'on a gardés donc de tout ce processus. Et voilà, et donc la matière sonore vient aussi sculpter l'espace, le sens.
Les corps.
Les corps. Et c'est vrai que certaines des femmes, du coup, qui sont déjà mamans et qui ont leur enfant, voilà, elles sont dans le spectacle avec nous parce que, voilà, leur témoignage est avec nous. C'est vraiment chouette.
Et est-ce que vous êtes sur scène, Julia, avec
non.
elle?
Non, merci.
Non, vous n'en avez pas eu envie?
Non, je suis ravie pour une fois de faire une chose à la fois et de pouvoir vraiment passer du temps à observer ce qui se passe sur scène, à diriger, à resculpter à nouveau et à nouveau le rythme, l'énergie, les déplacements, travailler sur vraiment ce lien dans le groupe. Et c'est tellement mieux qu'être sur scène et à la fois d'être danseur et chorégraphe et metteur en scène. Ouais, c'est vraiment agréable pour moi en ce moment de faire une chose à la fois. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à être dans cette posture d'observateur et de directeur d'orchestre, finalement.
Moi, je veux élever maintenant une protestation véhémente.
D'accord.
Parce que nous venons d'entendre, c'est fort intéressant, des choses qui ont été faites pour des femmes, et pour des femmes exclusivement. Et pour les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Eh bien, je protège, je trouve ça, cette discrimination insupportable.
Ben oui, mais si on pouvait porter la vie, moi je voudrais bien plein d'hommes sur scène. Il n'y aurait aucun problème. Mais en tout cas, on essaye aussi d'aborder cette question. Où sont les hommes dans ce processus? Et peut-être, c'est juste un clin d'œil. Si vous viendrez voir la pièce, vous entendrez, vous verrez. Mais c'est vrai que le parti pris, le propos du départ, c'était vraiment de zoomer sur les questions du corps et donc la femme. Mais qui le sait, peut-être pour un prochain projet.
Et puis il y a des hommes qui ont vu ce spectacle déjà.
Tout à fait.
Et qu'en ont-ils pensé?
Ah ben il faudrait...
Et nous.
Ben, il y avait beaucoup de futurs papas, donc les conjoints des performeuses, qui étaient très émus, très touchés, très impressionnés par... les compétences de leur femme, mais aussi le fait de redécouvrir autrement le corps, la vie, de peut-être porter un regard poétique sur ce processus. D'ailleurs, processus, on n'en a pas trop parlé, qui n'est pas que heureux et pas que... comment dire... Il y a beaucoup d'aléas dans ce processus et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont eu des soucis et qui n'ont pas pu rentrer avec leur enfant de la maternité ou qui n'ont pas pu aboutir, enfin qui n'ont pas pu amener à terme leur grossesse. Donc ça aussi, on essaye d'en parler dans la pièce, on essaye de toucher à cette thématique dont on parle presque jamais en fait dans notre société. Et certains pères étaient aussi très sensibles à cet aspect, par exemple.
Et puis vous cassez aussi, encore une fois, des stéréotypes sur « Oh, c'est si beau, c'est si bien, c'est si,
oui.
c'est si doux, c'est si tout
oui. ».
D'être enceinte, c'est pas forcément vrai.
Non, c'est pas forcément vrai. Et on a eu tout type de témoignages, d'ailleurs. Des femmes très épanouies, des femmes qui étaient épanouies, et puis parfois absolument pas. Et puis avec des petits soucis de santé, mais très heureuses d'être enceinte, ou inversement, très tristes de vivre tout ça. Et parfois du regard des autres aussi, comment ça se passait avec la famille ou dans la rue. Donc on a vraiment eu une multiplicité de regards face à cette expérience. Et j'espère, je me suis donné la tâche en tout cas de reproduire et de trouver des formes et des stratégies sur scène pour pouvoir montrer cette multiplicité d'expériences.
Et d'états et de,
oui.
de ressentis.
Oui.
On va traverser tout ça en tant que spectateur.
J'espère. En tout cas, on essaie de vous mettre dans un bain.
Amniotique.
Amniotique, déjà du départ.
Poétique.
Oui, et en partant vraiment du postulat qu'on est tous nés. Donc, qu'on soit homme ou femme, si on s'assoit, ben voilà, on peut le dire, le 8 mars à 20h, à la Ponatière de Chirolles, peut-être on peut s'asseoir déjà avec certitude, on est tous nés. Donc, quelque part, on a tous cette expérience cellulaire en nous d'être... avoir été porté, d'être passé à travers le corps de notre mère. Et ça, c'est pas rien. C'était le commencement. Mystérieux, mais sûrement le commencement. Et puis voilà, ce bain, on essaye de, effectivement d'amener le spectateur en voyage à travers différents états de corps et les différentes réalités d'un corps qui porte la vie. Donc on espère que, qu'on soit homme, femme... jeune ou moins jeune, si on est dans la salle ce jour-là, on puisse être le plus près possible, au plus près de ce ventre.
De presque renaître ?
Peut-être. Pourquoi pas ? J'espère, ce serait peut-être une belle chose, mais j'attends aussi des réactions du public. C'est vrai qu'à Crolles, on a eu aussi beaucoup de sages-femmes présentes dans le public. Et pour elle, c'était une renaissance parce qu'elle redécouvrait le corps d'une femme. Pour elle, le travail au quotidien, c'est quelque chose de routinier et de parfois très médicalisé. Pour certains autres qui accompagnent, par exemple, les accouchements à domicile ou à la PMI, par exemple, c'est un peu différent. Mais par exemple, leur témoignage, c'était j'ai redécouvert le corps, la grossesse, sous des angles que je ne voyais plus, dont je ne m'aperçois même plus, parce que ça devient presque banal, en fait. Donc, on verra ce qui va se passer à la Ponatière.
Et est-ce qu'il y a une danse de ces femmes qui vous inspire, vous, pour peut-être faire naître et nourrir une autre création et une autre Julia sur le plateau ?
Presque toutes les scènes. J'avoue que j'ai une... fascination immense pour ces femmes qui, au jour 1, n'ont presque jamais fait de danse, de théâtre, et au jour 10, elles sont performeuses sur scène avec une lumière incroyable. Et j'avoue, chaque scène m'inspire, chaque scène me donne envie d'aller pousser, enfin, de pousser plus loin ou d'extraire l'essence en fait, que j'ai essayé de développer. Pour l'amener ailleurs, donc peut-être avec d'autres publics ou d'autres femmes qui vivent peut-être des empêchements, d'autres types, ou des hommes aussi, ou des âges différents. En tout cas, le travail avec les corps non formatés, ce que j'appelle les corps non formatés, ça veut dire les corps de non-professionnels, m'intéresse beaucoup en ce moment. Et je me pose bien la question de comment ça pourrait cheminer pour la suite.
Vous voulez rendre des corps invisibles visibles ?
Oui. Et encore, déplacer le regard qu'on porte sur le corps. Qu'il soit enceinte, peut-être qu'il soit âgé, qu'il soit invisible. Je pense notamment aux prisonniers, aux femmes, aux hommes en prison. Oui. On n'a jamais fini de travailler sur cette question. Et même moi, même nous... qui travaillent dans le spectacle vivant, on a déjà peut-être, ouvert beaucoup de questions et traité de beaucoup de questions, mais même nous, on est victime de certains stéréotypes et de certains préjugés. On n'est pas à l'abri. Donc oui, je pense que c'est très intéressant de continuer à travailler là-dessus.
Quelques friandises, peut-être.
C'est vrai, moi j'ai un petit peu faim, je suis d'accord. Oui. Je sens mon ventre qui appelle, un autre ventre qui appelle. Alors, le moment des friandises, c'est assez simple. Il y a la casquette de Jean. Alors, quelquefois, c'est sa chapka, ça dépend de la météo, mais aujourd'hui, par ce soleil, il a choisi la casquette brésilienne. Hein, c'est ça, Jean, hein, c'est votre côté brésilien. Et dans cette casquette se cache une série de questions. Vous allez de votre main innocente, féminine, et italienne, tirer une question, la lire et puis y répondre si c'est possible à la radio. Ça marche.
Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans ? À qui, personnalité locale, nationale, internationale ou autre, entre quatre yeux, aimeriez-vous dire ces quatre vérités ? Alors, est-ce que j'aimerais lui dire mes propres vérités, c'est ça ?
Non.
Non. Ou enfin, lui poser la question, ou
lui,
comment
dire ce que vous pensez ce de que lui, vous pensez ah, de lui. Comme ça vient.
Comme ça vient.
Oui, oui, oui.
Et si ça vient en italien, peut-être.
Disons que j'en aurais une longue liste, je crois. Ben oui, c'est très facile, c'est très banal, mais je pense que je commencerai par Silvio Berlusconi. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, il a tellement fait du mal à l'Italie, à la culture, aux jeunes. Au moins jeune aussi, puisque puisque le lavage des cerveaux a très bien fonctionné grâce à la télé et à la presse. Donc je crois que s'il pouvait bien écouter, j'aurais beaucoup de choses à lui dire. En italien, en français, en anglais, en patois, dans plein de façons différentes. Mais surtout s'il pouvait comprendre.
Nul, il ne le comprend, aucune de ces langues peut-être.
Je crois qu'il voyage vraiment sur d'autres planètes. Sur d'autres sphères, très loin de nous.
Mm-mm. Monsieur Berlusconi, ne nous écoutez pas, alors. Eh ben, c'est la chanson.
Ah ben oui, ah ben oui, oui, ah ben oui, enfin, oui. Alors maintenant.
Mais bien
maintenant.
Sûr, c'est maintenant.
Oui, c'est maintenant l'heure de la chanson lamentable. La chantable ou
la chantable, lamentable.
Je suis versé par tout ce que Julia vient de dire, plutôt par ce qu'elle a dit avant de parler de Berlusconi d'ailleurs. Bon, alors est-ce qu'il y a une chanson que vous trouvez lamentable, minable, inécoutable, scandaleuse ?
Bah, d'ailleurs, parce que je suis ici en France et quand j'étais en Italie, je ne m'en rendais pas compte. Mais lasciatemi cantare con la chitarra in mano, c'est vraiment lasciatemi cantare, donc Toto Cutugno, c'est vraiment pas terrible.
On écoute à peine alors.
Oui.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
Bon, bah voilà encore un stéréotype. Il y a la pasta, il y a tout, ce que l'on pourrait détester de l'Italie à vous voir. Ou nous, c'est ce qu'on aime aussi,
bien sûr,
vu de l'étranger.
Bien sûr.
Pour vous, c'est quoi l'Italie aujourd'hui, Giulia ?
Ah, aujourd'hui, c'est un gros chaos. Et l'Italie sans aujourd'hui. C'est un beau pays en perdition. En tout cas, aujourd'hui, c'est un gros chaos. Et je suis fière d'être italienne, mais je suis très heureuse de ne pas y habiter. Et je dis souvent aux Français qui me disent « Ah, mais c'est génial !» Oui, oui, c'est génial de partir en vacances en Italie et puis de rentrer en France ou partir ailleurs. Je crois que vraiment être italien en Italie aujourd'hui, c'est très très difficile, c'est un compromis, c'est beaucoup de colère, c'est beaucoup d'insatisfaction. Et voilà.
Oh, bon.
C'est triste. Hein.
Ah, oui. Ça chante moins. Hein.
Ça chante.
Bon, après voilà, je pense de ne pas être la seule à le dire, et notamment parmi les Italiens immigrés, tous ceux qui vivent à l'étranger, d'ailleurs on y vit pour ces raisons-là, je pense. On aime notre pays, mais on ne peut pas faire grand-chose pour notre pays, puisqu'il est en perdition totale.
Ce qui veut dire que la création est en perdition aussi ? La danse,
oui,
par exemple,
comment... Il y a toujours des cellules de résistance. Comment elle va ? Grand pays de résistance, depuis toujours, d'ailleurs. Mais il va, enfin la danse va. De toute façon, les artistes s'arrêteront jamais de créer, même sous des régimes très, très totalitaires. Mais ils doivent cumuler beaucoup de travail, 2, 3, 4 par jour pour s'en sortir. Et puis en général, oui, à partir du moment où il n'y a pas l'intermittence du spectacle, à partir où il n'y a pas des subventions publiques, un subventionnement régulier, et c'est du saupoudrage, ça ne sert à pas grand-chose finalement.
Il faut donc qu'on nous écoute, ça parle ici aussi, en France, un statut, oui. Un ministère.
Oui, cette exception culturelle française, si vous nous écoutez, gardez-la, s'il vous plaît, protégeons-la tous ensemble. À partir vraiment de la plus jeune âge, mettons en place des artistes dans les écoles, amenons nos enfants au théâtre, au cinéma, au spectacle vivant, arrêtons de regarder la télé. Et peut-être Internet aujourd'hui, parce que la télé, c'est un peu has-been, finalement.
Bon, bah, il va être l'heure de se dire ciao, ciao, arrivederci.
Oh, ciao, ciao. Merci beaucoup, Giulia Arduca, pour ce très beau témoignage.
Merci à vous. Grazie.
D'une danseuse d'aujourd'hui, quoi que vous soyez, italienne ou pas, dansez, Giulia, merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Chris, merci à Louis qui nous ont accompagnés du côté de Radio Campus et de son joli petit studio douillet. Non, pas du tout. C'est pas douillet ici, mais qu'est-ce qu'on est bien. À bientôt, au mois prochain, par exemple, pour Les Démons de midi. I pazzi. Ciao a tutti.